Voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler de la venue du Fils de l'homme et de la leçon du figuier. Nous trouverons ces deux petits textes dans l'Évangile de Marc. Mais auparavant, Jean-Paul va nous faire une lecture.
Donc la première lecture du jour est dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 10, versets 11 à 18. Et tandis que chaque prêtre se tient chaque jour debout pour remplir ses fonctions et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui sont à jamais incapables d'enlever les péchés, lui, par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis se soit réduit à lui servir de marchepied. Par une offrande unique, en effet, il a mené pour toujours à l'accomplissement ce qu'il sanctifie. C'est ce que l'Esprit Saint nous atteste lui aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec eux après ces jours-là », le Seigneur a déclaré « En donnant mes lois, c'est dans leur cœur et dans leurs pensées que je les inscrirai, et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. Or là où il y a eu pardon, on ne fait plus d'offrande pour le péché. »
Nous allons lire maintenant dans l'Évangile de Marc, au chapitre 13, les versets 24 à 32. Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Alors il enverra les anges, et des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera les élus. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres, et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît. Ni les anges du ciel, ni le Fils, personne, sinon le Père.
Et enfin, la dernière lecture du jour se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 14. J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres, qu'il avait choisi, il fut enlevé. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve, alors que pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur dit « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. » Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sous leurs yeux, il se leva et une nuée vint le soustraire à leurs regards. Comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Car Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en est distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se retrouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
Les textes du jour, dans l'évangile de Marc au chapitre 13 et le premier chapitre des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre, nous placent dans le temps de l'attente. Attente du royaume des cieux, attente du royaume de Dieu. C'est un thème fondamental de la prédication de Jésus. Repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous.
Rappelez-vous la parabole des talents. La parabole des 10 vierges, qui nous place entre le déjà et le pas encore. Le règne de Dieu a été inauguré en Jésus avec déjà des signes révélateurs du royaume, des miracles, des guérisons, des libérations, l'évangile annoncé aux pauvres, la mort et la résurrection de Jésus sont des signes révélateurs du royaume commencé déjà.
Mais nous sommes dans le temps de l'attente. Entre la résurrection de Jésus et son retour, que l'on appelle la parousie. Il nous faut donc attendre. Attendre avec la patience de celui qui espère et l'impatience de celui qui aime.
Attendre le royaume qui mûrit lentement, comme le grain de blé qui meurt, mais portera beaucoup de fruits à l'été de la moisson, que déjà annoncent les tendres rameaux et les feuilles du figuier de Marc chapitre 13. N'oublions pas que le figuier symbolise l'abondance, mais aussi la synagogue, la science religieuse, avec aussi un sens initiatique. Adam et Ève, se voyant nus, utilisent des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Dans Les Rois, les arbres demandent au figuier de régner sur eux. Quand Jésus maudit le figuier desséché, il maudit en fait la science mauvaise des pharisiens. Mais il faut du temps pour rassembler tous les épis de blé, pour inviter tous les peuples de la terre au grand festin du royaume.
Après la ruine de Jérusalem, en 70, beaucoup de disciples et de chrétiens se sont affolés en subissant de dures persécutions et en ne voyant pas venir la fin des temps annoncée par Jésus dans ce passage de l'évangile de Marc. Chapitre 13, verset 30. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas avant que cela n'arrive. Mais Jésus rajoute, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père.
C'est donc très clair, personne, pas même Jésus, ne connaît le jour et l'heure de l'avènement du Fils de l'homme. Dieu seul le sait. C'est donc tout de suite qu'il faut être prêt. Demain, il sera peut-être trop tard, comme pour les cinq vierges insensées. À la question des disciples, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus répond par des paraboles.
« Une seule chose est nécessaire, dit Jésus. Tenez bon, résistez, n'ayez pas peur. Sachez que les persécutions et les douleurs sont en quelque sorte les douleurs d'enfantement d'un monde nouveau, jusqu'à la victoire définitive du royaume. »
Radio Grand Ciel, émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Simon Martin est à la technique et nous écoutons des extraits des concertos pour clarinette, puis pour flûte, harpe et orchestre de Mozart. Depuis le message de Jésus, et aujourd'hui encore, le royaume est déjà là, en quelque sorte, en formation. Et notre mission de chrétien est d'y œuvrer. Et ce, quelle que soit l'heure où nous nous mettons à la tâche, même à la 11e heure.
Que la moisson du monde est grande, dit le cantique, suscite au Dieu des moissonneurs. La tâche est en effet immense, démesurée, impossible pour l'homme dans un monde de folie apocalyptique. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 7, Jésus nous dit « Une nation s'élèvera contre une nation » et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Douleur de l'enfantement du royaume. Mais formidable espérance de l'histoire des hommes. Nous sommes nous-mêmes témoins et signes du royaume. Témoins de la présence du ressuscité qui habite en nous. Jésus ressuscité est absent par l'ascension, mais présent par le Saint-Esprit qui nous habite depuis la Pentecôte. Nous sommes faibles et loin de Dieu, mais par le Saint-Esprit, nous sommes forts et tout près de Dieu, prêts à nous mettre à l'ouvrage, riches d'une puissance et témoins d'un message à porter jusqu'aux extrémités de la terre.
Mais attention! La puissance du Saint-Esprit ne fait pas de nous des chrétiens parfaits, ni des surhommes. Elle nous aide. Elle nous aide à veiller dans le temps de l'absence de Jésus et elle nous aide à devenir des adultes responsables, bâtisseurs du royaume, dans la foi et dans l'espérance.
Il ne s'agit surtout pas de devenir des contemplatifs à regarder le ciel sans se consoler du départ du Maître. L'important, ce n'est pas les signes. L'important, c'est ce que nous faisons. C'est la façon que nous choisirons pour faire fructifier les talents confiés par le Maître, notre vie, enterrerons-nous nos talents ?
En fait, Jésus préparait ses disciples à ne pas se préparer, mais à avoir confiance, à placer leur foi en lui. Ne te prépare pas, mais compte sur le Seigneur. Je viendrai à toi, dit Jésus. Jamais je ne te laisserai orphelin. Je t'enverrai mon esprit. C'est lui qui te convaincra intérieurement que je suis ressuscité, que je suis vivant. C'est lui qui t'enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. C'est lui qui te rappellera mes paroles et me glorifiera. Oui, le Saint-Esprit s'emparera de toi, te rendra fort. Ne te prépare pas, mais compte sur le Seigneur.
Jésus est un réaliste. Il voit la réalité telle qu'elle est et imagine le futur tel qu'il risque d'être. Et c'est pourquoi il nous encourage, chacun d'entre nous, à augmenter notre confiance en lui, à bien inscrire dans nos cœurs que rien, ni la vie, ni la mort, ni la souffrance, ni la persécution, ni l'angoisse, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Tu es entre les mains de Dieu. Les seules personnes que tu aies à craindre, ce ne sont pas ceux qui peuvent tuer ton corps, mais la seule personne que tu aies à craindre, c'est Dieu.
Pour conclure, je dirai le dernier mot de la parabole des 10 vierges. Veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le verbe veiller en grec, c'est grégorein, d'où vient le nom de Grégoire, le veilleur, l'éveillé.
Il faut veiller, c'est-à-dire tenir la lampe prête, remplie d'huile, allumée, pour s'éclairer et pour éclairer les autres, pour illuminer. Il n'est pas question de baisser les bras, de se décourager, d'avoir peur, c'est-à-dire de manquer de foi. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Dit Jésus au fort de la tempête à ses disciples.
Dans la tempête de notre monde en folie, il nous faut tenir la lampe allumée, comme le phare qui redonne courage aux marins en détresse. Il nous faut sans cesse faire réserve d'huile. Il nous faut garder les yeux tournés vers, c'est-à-dire convertir. Tourner vers celui qui vient, dans la nuit apocalyptique, au plus fort de la tempête, au plus profond de la nuit, quand le soleil s'obscurcit, nous dit Marc dans son évangile, quand la lune ne brille plus, quand les étoiles se mettent à tomber du ciel.
Et dans ce noir désespoir, il est là. Il vient et nous dit « Notre nuit n'est pas sans lumière. La provision d'huile, c'est notre vigilance. notre fidélité, notre victoire sur la peur, notre vie dépensée, notre attente, notre prière, notre espérance, notre foi, notre joie, notre écoute des pas de Jésus qui vient. Notre vie est une longue veille d'attente et d'espérance, mais une veille active de chrétien.
Dès que les rameaux du figuier deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à votre porte. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. Amen.
Ensemble. Seigneur, donne-nous ta lumière, qu'elle transforme nos nuits en jours. Viens nous tenir éveillés, debout, pour apporter la réconciliation, pour rassasier de pain et d'amour, pour offrir l'amitié, l'accueil, le respect dû à tout homme, à toute femme, pour allumer dans toutes les nuits du monde la lumière de l'espérance. Donne-nous, Seigneur, ta lumière, pour n'être pas condamnés à la nuit. Que ton matin soit proche, pour veiller et ne pas se laisser surprendre lorsque la nuit tente de se faufiler dans nos vies et dans notre monde. Oui, Seigneur, il nous faut la lumière pour avancer, confiance en l'avenir.
À nous de quitter la nuit et de devenir enfants de lumière. À nous de nous laisser réveiller par les multiples appels de nos frères. Devenir ainsi témoins de l'Évangile. Nous t'apportons celles et ceux qui sont dans la nuit de la solitude, de la maladie, de l'exclusion. Nous t'apportons ce monde qui cherche un avenir de paix et de justice et nous joignons nos voix ensemble comme des veilleurs dans la nuit. Et voici ces quatre temps de veille. Le soir de la mémoire, la minuit d'espérance, la troisième, veille de la foi, et le matin de l'amour. Comme les quatre semaines de l'Avent qui précèdent Noël, mémoire, espérance, foi et amour. Voici bientôt Noël, tout proche. Ouvrons nos portes et nos vies à l'amour inouï de Dieu. Jésus s'est approché de nous. Amen. Cette émission se termine. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Mais vous pouvez aussi nous rejoindre le dimanche matin à 10h30. Il y a culte au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Au revoir.